Un des sujets qui m'inquiète beaucoup en ce moment, c'est ce que l'on va avoir dans notre assiette demain. Nous, bien sûr, mais aussi les 7 autres milliards d'êtres humains. Il y a déjà 1 milliard d'êtres humains qui ne mangent pas à leur faim, mais on sait bien que la guerre en Ukraine, mais aussi le changement climatique et la raréfaction de l'eau potable vont accroître ce problème. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Eugenia Carrara, qui est la secrétaire générale de l'Union mondiale des marchés de gros. Eugenia, c'est une Argentine qui a fait des études assez exceptionnelles puisqu'elle a fait Normal Sup Elena en étant Argentine. Et avec elle, on va parler de la transition des modèles alimentaires en France, mais aussi en Europe. On va se poser pas mal de questions sur justement le rôle de l'Europe, à quoi ça peut ressembler une agriculture régénératrice, comment on peut faire quand on parle de grande masse. Donc je vous laisse écouter cet épisode qui est passionnant. Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Eugenia.
Bonjour, comment ça va Greg ?
Eh ben ça, c'est moi qui dis ça d'habitude. Ça va bien, et toi ?
Trop bien, vraiment je suis très contente d'être ici avec toi aujourd'hui.
Eh ben moi aussi, j'avais eu l'occasion de t'interviewer pour mon livre. Et là donc on va faire une interview pour Vlan, ce qu'on n'avait pas eu l'occasion de faire encore. Et bon, pour la petite histoire, on se connaît quand même assez bien avec Eugenia. On va parler du système alimentaire et de la situation actuelle de l'alimentation. Est-ce que tu peux nous parler de la manière dont on a fait de l'agriculture sur les 40, 50 dernières années pour qu'on arrive à la situation aujourd'hui qui est évidemment un peu complexe?
Alors, l'histoire de l'agriculture, c'est l'histoire aussi du développement de sociétés humaines. Donc, on a traversé énormément des défis, des croissances, d'expansions qui ont fait en sorte qu'à un moment donné, et on les voit quand on lit la littérature. L'autre jour, j'étais notamment en train de lire des textes sur les Maroc, des ravins et des soufis qui voyageaient dans des terres arides du sud de Maroc. Et on voyait tous les temps revenir l'élément famine. Et famine, c'était quelque chose qui, pendant des millénaires, les hommes, ils connaissaient, ils rencontraient, surtout ce qu'on appelle les sociétés des peuples non nomades, donc des sédentaires, parce qu'on n'avait pas encore développé des techniques qui permettent à l'homme de prévoir des quantités nécessaires, ou des aléas climatiques faisaient en sorte que parfois il n'y avait pas des quantités nécessaires pour nourrir tout le monde. Donc à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, donc bien évidemment, il y avait des sociétés qui étaient extrêmement fragilisées, donc pas seulement du point de vue économique, morale, sociale, mais aussi de point de vue de la sécurité alimentaire. Donc, on s'est mis à tous assimuler, à produire plus de nourriture et à créer aussi tout un système, donc pas seulement agricole, mais aussi des distributions, avec l'avènement de la grande distribution, pour pouvoir avoir quelque chose qui c'était, aujourd'hui on les voit comme allant de soi, mais pendant très très longtemps, c'était une des enjeux centraux de la survie humaine, que c'était l'alimentation. Donc aujourd'hui, on se retrouve face à un moment où cette question qui n'a pas été posée, donc en tout cas pour l'Occident, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde du point de vue global, je te l'ai dit auparavant, il y a quand même 900 millions de personnes aujourd'hui qui souffrent de faim dans le monde. Donc c'est surtout dans les pays occidentaux qu'on est dans une abondance, une hyperabondance d'accès à l'alimentation et aussi à des productions donc agricoles. Mais voilà, aujourd'hui, y compris dans nos pays, on voit quand même l'ombre d'une crise alimentaire venir. On se pose beaucoup de questions sur quel va être les prochains mois en termes de distribution et si on va pouvoir finalement assurer quelque chose qui semble tellement allant de soi pour nous.
Et est-ce que le problème, c'est de se dire qu'on est peut-être trop nombreux sur la planète ?
Alors, il y a beaucoup de chercheurs et de politiques qui parlent sur cette question. Donc, est-ce que la Terre qu'on habite est faite pour arbitrer 7 milliards de personnes comme on l'est aujourd'hui? Moi, je ne vais pas me positionner sur des questions tellement philosophiques. Par contre, aujourd'hui, si on revient aux faits, donc, on a assez de nourriture pour nourrir 10 milliards de personnes. Et on est 7. Donc, on est presque. Donc, ça veut dire qu'on a plus de nourriture de ce qu'il en faut pour nourrir tout le monde. Alors là, la vraie question qui se pose, c'est une question de système alimentaire et des acteurs qui participent à ce système et qui font en sorte qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a une certaine inefficacité qui fait en sorte que beaucoup de gens dans le monde ne puissent pas avoir accès à la nourriture pour différentes raisons. Il y en a bien évidemment de point de vue économique. Donc, pour revenir à ta question de l'alimentation et l'accessibilité à des produits agricoles, donc aujourd'hui, l'ONU a sorti, donc il y a 3 mois, donc des chiffres de l'état alimentaire dans le monde, et plus de la moitié de la population mondiale n'a pas accès à ce qu'on appelle, donc dans la définition onusienne, donc à des diètes donc bonnes pour la santé. Donc voilà, donc là on voit donc un problème d'accessibilité, mais en tout cas il n'a pas un problème en termes des quantités pour nourrir tous les gens qu'il y a aujourd'hui dans la planète.
Parce que ce que tu dis, c'est qu'on donc on produit pour 10 milliards, on est 7 milliards, et il y a en plus 1 milliard de personnes qui sont plutôt dans une situation de famine. Donc en fait, il y a 6 milliards de personnes qui ont trop à manger, entre guillemets, 1 milliard qui n'en a pas assez, et 3 milliards qui sont quoi, jetés ou qui sont...
Alors, un tiers de ce qu'on produit aujourd'hui est perdu. Donc, ça dépend dans quel pays. Dans chaque pays, va avoir une situation différente. Dans l'Occident, dans des pays qu'on appelle des pays développés, par exemple en France aujourd'hui, on est à des taux assez hauts de ce qu'on appelle les gaspillages alimentaires. Donc, les normes les plus importantes se trouvent dans les gaspillages faits au sein des foyers, donc les consommateurs qui achètent trop et qui finalement tout ça part à la poubelle. Après, bien évidemment, il y a des autres secteurs aussi qui créent donc, de gaspillage et aussi des pertes. Donc, dans des autres pays du monde, on va entrer plus dans ce qu'on appelle les pertes donc, alimentaires. Donc, c'est avant qu'il arrive, donc, on va dire, au niveau de retail, au niveau de l'achat direct aux consommateurs. Donc, en Inde ou même en Afrique, il y a des pays où on est vraiment à presque 45% des pertes donc, à la ferme parce qu'il n'y a pas parfois donc, les fermiers donc, voilà, par exemple il y a une volatilité des prix, donc du coup les prix il y a une grosse baisse, donc il n'y a pas assez de demandes d'un produit, donc les fermiers se retrouvent avec toute sa production donc, sur place qui peut plus vendre, ou il n'y a pas accès à la logistique, ou il n'y a pas accès à la chaîne de froid, donc il y a la moitié qui est perdue donc, lors de transport, de la campagne à la ville. Donc, on est face à une situation où, effectivement, et ça, c'est vraiment une des grosses priorités aujourd'hui, c'est réduire les pertes et les gaspillages alimentaires.
Il y a un autre sujet dont je voulais te parler, c'est aussi l'indépendance alimentaire. Parce que quand tu parlais de la Seconde Guerre mondiale, j'avais reçu, entre autres, Elisabeth Laville, il y a un petit moment sur le podcast qui disait que aujourd'hui, enfin, plutôt dans les années 50, l'indépendance alimentaire d'une ville comme Paris, par exemple, c'était à peu près 50%, c'est-à-dire que 50% de ce qui était consommé dans Paris, région parisienne, était produit dans Paris, région parisienne, et aujourd'hui, je crois que c'est un peu moins de 3%.
Ouais, donc c'est 2,7.
Voilà, c'est très bas. Donc, en fait, il y a aussi cette question-là, en fait, ce qui est assez étrange, mais en fait, ça va être hyper intéressant d'après. Reconnecter, parce que c'est lié au gaspillage alimentaire, parce que moi je crois que quand tu n'as plus conscience que ce que tu consommes, ce que tu achètes demande de l'énergie humaine, je veux dire c'est du soin, etc., bah du coup en fait tu le consommes comme si c'était un bout de plastique, quoi. C'est-à-dire qu'en fait tu ne réfléchis pas du tout, même s'il faudrait en l'occurrence réfléchir au bout de plastique, tu réfléchis pas du tout à ton consommation et donc tu le jettes. Comment ça s'est produit, cette mondialisation, et donc du coup le fait que les villes soient complètement dépendantes, enfin plus du tout indépendantes en tout cas de manière alimentaire?
Alors là, on touche beaucoup, beaucoup de questions différentes. Sûr. Donc, il y a une auteure que j'aime beaucoup, qui s'appelle Caroline Steele, qui parle beaucoup donc de l'évolution des villes, Hungry Cities, et comment en réalité, donc effectivement, on a de plus en plus extériorisé donc l'alimentation des villes. Donc, c'est les campagnes qui produisent pour nourrir donc essentiellement les villes. Donc aujourd'hui, je pense que c'est plus de 70% de ce qui est produit en termes des produits alimentaires qui va pour les villes, alors que on est quand même dans une situation, en 2050, on attend que 75% de la population va vivre dans des villes, mais aujourd'hui, on a des taux plus bas. Ça veut dire quand même que les habitants des villes, ils sont une surconsommation aussi de la production alimentaire. Alors, auparavant, les villes étaient beaucoup plus petites. Donc, il avait moins des pressions donc, démographiques dans des villes. Il avait beaucoup plus de campagnes. Par exemple, les modèles anciens des villes qu'on voit à Rome, donc à côté de Rome, il a énormément de terres agricoles. Il a vraiment une grosse production. C'est toujours le cas, par ailleurs. D'accord. Donc, il avait beaucoup plus de possibilités de nourrir donc, les personnes qui habitaient à Rome. Avec l'accroissement des villes et finalement donc, une extériorisation, externalisation, comme je disais tout à l'heure, de l'alimentation, on arrive à des surfaces, en fait, on va dire à proximité des villes qui coûtent trop cher. Donc, l'agriculture, normalement, ça s'est fait sur des terrains, donc, voilà, c'est pas très coûteux. Donc, il a une pression qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on va dire que c'est pas rentable de faire l'agriculture à proximité de villes. Après, bien évidemment, il y a aussi des problèmes, donc, des climats, des temps. Donc, à côté de Paris, on peut pas produire la même chose qu'on peut produire à Rome ou dans les sud de la France. Il y a des villes, par exemple Toulouse, qui est une ville vraiment d'une plus petite taille, ou à proximité, en Occitanie, on a énormément des productions agricoles. Donc, d'une part, aujourd'hui, heureusement, donc, beaucoup de politiques dans le monde se sont pris de cette optique d'essayer de ré-territorialiser et commencer à nouveau à penser une agriculture des proximités. Voilà, c'est aujourd'hui les taux d'agriculture à Paris sont très très bas. On peut les surmonter. Il a une volonté de les faire, donc il a plusieurs projets, donc des PLU, des plans locaux d'urbanisme qu'on l'appelle, pour essayer de redensifier, donc c'est ce qu'on appelle la couronne verte, donc et d'amener plus aussi d'une agriculture des productions des produits directement pour les consommateurs, parce que la plupart des productions aujourd'hui en Île-de-France, il faut savoir, c'est de céréales. Voilà. D'accord. Parce que c'est ça qui, les rendements, il est plus fort par rapport à ça. Donc, je pense que, à nouveau, mais on en parlera tout à l'heure, mais un des grands apprendissages de cette crise, c'est arrêter de penser en termes des rendements exclusivement et essayer d'avoir une vision beaucoup plus holistique de qu'est-ce que ça veut dire sur les longs termes. Voilà. C'est en termes pour la terre, pour les êtres humains, donc, et pour les développements qu'on souhaite, les visions qu'on a envie d'avoir comme société. Donc, tu disais tout à l'heure aussi la relation entre la terre et les gens des villes, bien évidemment. Donc, ça, on les voit. Il a des enfants qui ne savent même pas. Voilà, c'est par exemple, on leur dit la pomme de terre, ils ne savent pas s'ils poussent sur la terre ou si, voilà, c'est une pomme voilà, sur un arbre.
Mais moi, le premier, tu sais, on dit souvent, pardon, je te coupe, mais tu sais, on connaît des marques, on en connaît des milliers. Et en même temps, moi, j'ai téléchargé une app pour reconnaître les fleurs, pour reconnaître les plantes, parce qu'en fait, j'en ai aucune idée. C'est-à-dire que, alors bien sûr, je sais comment pousser, enfin, je sais pas. Non, d'ailleurs, j'ai jamais vraiment mis les mains dans la terre, mais tu vois, je suis capable de reconnaître une aubergine, une tomate, je sais comment ça pousse, un ananas, etc. Mais par contre, tu vois, je suis pas capable de reconnaître les arbres, et clairement, je sais plus du tout, enfin, je serais pas capable de m'occuper d'un jardin aujourd'hui. Enfin, c'est sûr que non.
Mais ça, c'est des choses, par exemple, que c'est clair qu'en termes des politiques publiques, et c'est là vraiment où je pense qu'aujourd'hui, il faut repenser la façon dont on a conçu. On pense vraiment c'est aux citoyens seulement comme un consommateur de produits dans sa sécurité alimentaire. Mais il a tout un aspect social, il a un aspect aussi des nutrition, donc des santé publique. Et finalement, donc, développer donc, un enseignement donc, aux enfants, c'est extrêmement important. C'est aussi important que développer des maths ou des langues étrangères. Donc, on doit savoir se nourrir aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on voit que vraiment une des premières causes des morts, c'est des maladies liées à une mauvaise alimentation, on est quand même dans des pays européens avec des taux d'obésité très importants. Donc, pouvoir reconnaître, tu disais tout à l'heure, une aubergine ou une tomate, ou même, voilà, j'ai donné
un concombre, une courgette, par exemple,
mais
qui se ressemble.
En réalité, donc, même une pomme n'est pas une pomme, comme dirait Marguerite. Donc, en réalité, des pommes, il y en a 50 types de pommes différentes. Donc, ça, c'est un grand enjeu aussi pour les futurs. On a énormément réduit la diversité en termes des grains. Donc aujourd'hui, voilà, il a une réduction, mais c'est des sortes je pense qu'il y a une centaine d'années, on avait 4000 variétés et aujourd'hui, il y en a 30. donc qui sont les plus aimés dans le monde. Donc par exemple, de faire reconnaître aux enfants donc des variétés qui grandissent donc dans les nord de la France ou dans les sud ou même en Pologne, qui c'est des endroits où il y a beaucoup de c'est beaucoup de pommes. Donc et de voir, de goûter à ça, de goûter vraiment la c'est des choses, mais à mon avis, c'est ça qui va façonner dans la société de demain si on a véritablement envie de réussir la transition écologique et la transition du système alimentaire.
Alors là, il y a plein de sujets qui du coup, je ne sais pas comment je vais faire. Mais en fait, là où j'allais et là où tu es allé, c'est les deux m'intéressent vachement. Parce qu'en fait, là où tu es allé, c'est l'une des premières questions que je t'ai posées sur l'histoire, comment ça s'est passé sur les 50 dernières années. Et là où je voulais aller, moi, c'était... mais du coup, on va revenir là-dessus. C'était aussi sur la déconnexion. En fait, on parle de commodisation, c'est-à-dire de la nourriture. C'est-à-dire que... Et je vais prendre un exemple qui m'est propre parce que c'est plus simple. Et du coup, ça marche bien, je trouve, quand ma mère fait pousser des tomates cerises ou fait pousser des trucs et qu'elle me les donne. Il est hors de question que j'en gaspille une, tu vois, que je la jette. C'est-à-dire que je vais faire vachement attention à les manger toutes parce que je sais qu'elle y a mis tout l'amour qu'elle y a mis, etc., etc. Et ça, en fait, c'est quelque part la relation normale qu'on devrait avoir avec la nourriture. Sauf que quand on l'achète au supermarché, et qu'on n'est plus du tout en lien du coup avec le paysan, on est les premières générations finalement à ne plus être descendants de paysans, c'est-à-dire on n'a pas ni nos parents ni nos grands-parents qui étaient des paysans, c'est agriculteurs, j'entends par paysans, du coup on est un peu déconnecté de la terre, c'est-à-dire qu'on n'a pas le savoir, c'est-à-dire on ne sait plus exactement comment ça pousse, etc., mais en plus on n'a plus vraiment le respect non plus. Et ça, c'est un lien qui me semble hyper fort, c'est-à-dire que comment on peut respecter les agriculteurs si on ne respecte même pas ce qu'ils font et qu'on s'est déconnecté du travail qu'ils font, parce qu'il est hyper important, alors qu'avant, je pense, même si je ne suis pas en train de dire que c'était mieux avant, etc., ce n'est pas la question, mais il y avait cette reconnaissance sociale des agriculteurs parce qu'ils nourrissaient les villages qui étaient à côté, enfin, ou les habitants de la ville, etc., enfin, les habitants de là où ils habitaient. Et du coup, ben, nécessairement, il y avait une reconnaissance sociale qui a complètement disparu, cette reconnaissance sociale, non ?
Alors, pour revenir, c'est très large à nouveau, mais donc, par rapport au potager ou à un potager urbain ou au fait de voir finalement les tomates cerises qui t'a donné ta mère dans ces petites... cadeau, l'unicité, de savoir qu'elle a passé beaucoup de temps, donc l'énergie, donc cette énergie-là, ça peut être ta mère, mais ça peut être aussi n'importe quel autre agriculteur, donc qui, voilà, c'est qui peut être, voilà, c'est pas seulement à proximité de Paris, mais peut-être au Maroc, ou peut-être en Italie, ou ailleurs, donc je pense que là, les enfants, dans les futurs, si on a des potagers dans des écoles, des potagers qui vont servir comme des exemples, ça va pas servir pour, donc, parce que l'agriculture urbaine, il faut dire la vérité, ça va pas nourrir la quantité des gens, l'immense majorité des gens qui habitent dans des villes. C'est pas ça, c'est qui va nourrir les gens. Mais par contre, ça peut véritablement donc les amener vers une démarche beaucoup plus responsable vis-à-vis de la terre, de comprendre aussi donc les cycles de la terre et pouvoir donc aussi c'est nourrir d'une façon donc de créer une relation émotionnelle. Donc il y a beaucoup de pays qui sont fait ça. Donc la France, ça c'est les grands paradoxes français. Donc c'est un pays qu'à un moment donné, il a fait vraiment cette division nature-culture très forte, qu'on dirait Philippe Descola. Donc, dans des pays germaniques, on voit beaucoup plus donc, un mythe donc, d'origine très lié à la terre, à la campagne. Donc, je pense que je t'ai dit c'est tout à l'heure, mais en Suisse, en Autriche ou en Allemagne, c'est très normal d'avoir, donc, dans n'importe quelle petite ville, la plupart des gens, ils sont de petites lapins de terre pour faire leur petit potager. Donc, ils sont des choux, des pommes de terre, des carottes, des salades, donc des petites choses. Et après, même en ville, même à Genève, par exemple, c'est une ville quand même de 500 000 habitants, donc il a la commune met à disposition des gens qui les souhaitent, donc des lots de terre pour avoir son potager. Et ce sont des choses, moi, il y a quelques années, j'ai vécu en Suisse, et c'était quelque chose qui était très normal, c'était mal vu de ne pas avoir son potager, il fallait savoir faire son potager, même si c'était... c'était un tout petit pourcentage, voilà, de ce qu'on mangeait.
En fait, c'est pas une démarche survivaliste, c'est une démarche de se reconnecter à la terre, de savoir de quoi il s'agit et de respecter. Parce qu'en fait, quand on parle de gâchis alimentaire, quand tu disais tout à l'heure qu'il y a 30%, ce qui est énorme, et je pense que dans les villes, c'est encore plus, dans les villes occidentales, je pense que ça doit être plus que 30%. Parce que c'est 30%, c'est une moyenne, j'imagine, pour
non, 30%, aujourd'hui, c'est des pays occidentaux.
Oui, mais pour les pays, mais par exemple, dans une ville comme Paris, ou Lyon, ou Marseille, j'imagine, je suppose, mais j'en sais rien, que le pourcentage, il est plus élevé. Parce que si c'est la moyenne des pays occidentaux, j'imagine que quand tu rentres dans des villes très concentrées, le pourcentage doit augmenter. Et en fait, ça permettrait sans doute de limiter ça, ce gâchis, quoi. Sans doute. Je sais pas, peut-être.
Alors pour les gâchis, je pense qu'il a beaucoup de technologies qui sont en train de développer aussi pour aider donc les gens à jeter moins. Donc à Paris notamment, il a une spécificité que c'est que les gens, il a beaucoup de gens qui habitent donc avec des petits ménages. Donc à l'intérieur de Paris, les gens font beaucoup les courses aussi parce qu'il a un tracé. Donc c'est une ville où il a eu énormément des politiques alimentaires. Donc à différence des autres endroits, voilà, c'est plus nordique où peut-être on a délégué plus à la grande distribution. Donc à Paris, c'est vrai que la plupart des tous les arrondissements, en réalité, ils sont plusieurs marchés des rues par semaine où on peut aller acheter des produits frais, donc à des prix quand même assez accessibles. Voilà, c'est chaque quartier a son on va dire son marché. Donc Raspail, on peut pas comparer avec Belleville, mais en termes d'accessibilité, tout le monde peut avoir accès quand même à des régimes frais, alimentaires et produits frais, donc voilà, qui sont économiquement accessibles. Et après, l'ensemble des supérettes et autres petites commerçants qui font en sorte que les gens puissent acheter, donc on continue. Donc peut-être il y a moins d'accumulation donc dans les foyers des gens que dans des autres endroits où il va y avoir vraiment beaucoup plus d'achats en masse. Voilà, okay. Donc en réalité, c'est paradoxal. Voilà, à nouveau, donc Paris, il y a beaucoup de gaspillage, mais le fait que les gens aillent faire des courses très souvent et des petites quantités, ça diminue aussi. Donc c'est la quantité de gaspillage qu'on a à la maison. Par contre, aujourd'hui, il y a aussi donc, des startups, par exemple, qui travaillent très bien sur les sachets intelligents. Donc, ils essayent, si tu acceptes, donc, tu partages un peu de ta data et ils voient en moyenne combien de jours tu es à la maison, tu dis ce que tu aimes, ce que plus ou moins ce que tu manges, et ils te proposent donc, de faire des sachets avec des recettes des plats et autres. Donc, je pense que ça apprend les gens aussi les goûts de, comme on apprend les goûts de la terre, donc les goûts de l'agriculture, les goûts des saisons, les goûts de ce qui pousse à un moment donné et pas dans un autre, parce qu'on revient à l'internationalisation des réseaux de distribution. C'est vrai qu'il y a des gens qui ne savent pas à quelle époque de l'année on mange des tomates et à quelle époque c'est pas normal d'avoir une tomate sur son assiette. Voilà. Mais voilà, c'est, oui, ils pensent, ah oui, en janvier on mange des fraises. Ah bah, bon, d'accord. C'est bien d'où tes fraises. Ou l'avocat, alors que, et c'est toute une éducation. Aujourd'hui aussi, il y a beaucoup de gens qui veulent réduire la consommation des viandes et des poissons et qui ont besoin d'avoir des sources de protéines différenciées. Donc la première chose à laquelle ils pensent, ah ok, je remplace par l'avocat. Mais bon, l'avocat, d'où il vient, quel est l'impact, il a toute une éducation qu'on doit commencer à favoriser, à développer par différents moyens pour amener et faciliter aussi ces transitions et faire en sorte que les gens, ils retrouvent ça d'une façon gaie et facile. Ça ne va pas être un truc chiant. On aime tous manger. Manger, c'est quelque chose qui est tous les sociétés. En fait, c'est presque aussi fondamental que les feux. Donc, du moment où l'être humain a découvert les feux, il a pu commencer à cuisiner. Voilà, c'est la grande différence avec la plupart de avec tous les autres aliments dans le monde. On cuisine nos aliments. L'effet de cuisiner nos aliments a modifié aussi donc toute la structure de notre mâchoire, qui est devenue beaucoup plus petite parce qu'on avait moins besoin de mâcher. Donc, ça a développé aussi notre boîte crânienne. Donc, il y a beaucoup de fonctions par la suite, y compris aussi en termes de ces assimilations des nutriments et tout, qui était beaucoup très facilité par la cuisine. Donc la cuisine est liée directement au développement de nos sociétés, mais au-delà de l'aspect purement donc nutritif, on a un aspect culturel très fort. Toutes les cultures du monde se retrouvent à un moment donné autour d'un repas. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit reconnecter avec des repas de qualité, de voir qu'est-ce qui est arrivé à un moment donné. Donc, je pense que les Covid nous a montré qu'on est à la fin d'un modèle hyper productiviste, pas du tout basé sur l'homme, mais basé vraiment sur une sorte de capitalisme purement économique. Et maintenant, on voit que voilà, où est-ce qu'on amène nos populations.
Et là, je voulais revenir justement à cet endroit, parce qu'en fait, quand on parlait tout à l'heure de sur ce retour en arrière de sur 50, 70 ans d'agriculture industrialisée, en fait, finalement, c'est ça qu'il s'agit. En fait, ça a plusieurs conséquences. La première, c'est que comme on était dans une forme d'optimisation, tu l'as dit tout à l'heure, on a réduit le nombre de graines, finalement, donc on a réduit les espèces, ce qui peut ça être hyper dangereux, parce que ça veut dire que s'il y a une maladie XY qui attaque une forme de graine, on n'aura pas d'autres. On n'aura pas les autres formes parce qu'en fait, on les a plus, tout simplement. Enfin, elles doivent être bien quelque part, j'imagine, j'espère. Mais voilà. La deuxième, c'est qu'on a bourré les sols d'azote et de pesticides et de plein de trucs. Et du coup, on a rendu les terres plus vraiment cultivables. Enfin, je pense que tu connais mieux les chiffres que moi, pour le coup. Mais...
Oui, c'est 70% des terres cultivables qui sont aujourd'hui en état de dégradation extrême. C'est-à-dire 70% des terres qui bientôt, si on continue avec les systèmes de production qu'on a aujourd'hui, on ne pourra plus cultiver. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'on doit devoir mettre de la pression sur des terres qui aujourd'hui sont les poumons de la planète et qui nous protègent aussi, donc de la surchauffe de notre planète. Donc, et c'est ce qu'on est en train de faire en avançant sur des terres dans l'Amazonie et dans des autres zones qui aujourd'hui, c'est des zones protégées, c'est des grands poumons des forêts de notre planète. Donc, je pense que c'est là où on se rend compte, c'est un peu comme la série donc, de Netflix, Don't Look Up, qui vient de sortir, on est quand même face à une évidence. Donc, il faut changer nos modes de production agricole, mais très rapidement. C'est juste que c'est vrai, les prix pour faire ça n'est pas évident. Voilà, il faut faire il faut être courageux en termes de politiques publiques, des réglementations, des choses qu'on doit achever, notamment. Je pense qu'on parlait tout à l'heure aussi, la Commission européenne, ils sont lancés à l'intérieur de Pacte vert, du Green Deal, donc toute une stratégie qui s'appelle de la fourche à la fourchette, donc voilà, de Farm to the Fork, dans laquelle il s'établit par exemple que d'ici 2030, il faudra réduire de la moitié donc, des pesticides utilisés. Et malheureusement, à cause de la guerre en Ukraine, on est revenu en arrière parce que réduire les pesticides aujourd'hui, on pense que c'est égal à réduire la production.
Oui, mais en même temps, c'est sans doute le cas. Je pense fondamentalement, c'est sans doute le cas, mais c'est reculer pour mieux sauter parce que ça veut dire qu'on prend une décision court terme qui va avoir des impacts qui sont plus graves à long terme. C'est-à-dire qu'en fait, on prend une décision pour maintenir la situation. Et je comprends les gens qui prennent ce genre de décision. Ils sont, moi, je suis en position. Voilà, je maintiens mon truc, je maintiens mon salaire, je maintiens tout. Mais pour demain, finalement, ben, ça veut dire qu'on aura des sols qui seront encore moins. C'est là, ils sont peut-être, il y a 70% des terres, peut-être que ça sera 75, peut-être 80, qui seront encore moins capables de produire. Et là, on le voit en plus, au moment où on enregistre, en tout cas, il y a des sécheresses hyper fortes en France. En tout cas, cette année, c'est une année où il n'y a pas de pluie. Et c'est aussi, c'est un énorme problème, en fait. Parce que quand on parle de dérèglement climatique, qui est plus, à mon avis, qui est plus juste de parler de dérèglement que de changement climatique, parce que quand on parle de l'augmentation des températures, les gens pensent que ça a augmenté de 3 degrés. C'est pas exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, ça se dérègle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et c'est ce qu'on voit dans certains pays d'Afrique, c'est-à-dire qu'il y a des immenses, pluie dans des périodes de sécheresse, il y a des périodes de sécheresse pendant les périodes où il y a de la pluie, et du coup ben, si vous mettez beaucoup de pluie sur de la sécheresse, ben, l'eau elle coule et elle rentre pas dans les terres, donc en fait c'est aussi ça qu'on va sans doute vivre, on le voit déjà dans certains pays, on l'a vu à Madagascar, on le voit dans certains pays d'Afrique, et je pense
on
que
les
ça
voit
va
en remonter. Inde, on les voit au Maroc, on les voit vraiment dans énormément de pays, on les voit ici, voilà, c'est en France, au Portugal, c'est oui, c'est une situation, vraiment c'est les dérèglements climatiques, donc c'est une réalité qui devient de plus en plus évidente, donc les Covid a montré donc la fragilité des chaînes, donc et de la production, c'est clair, les gens ils ont eu peur, on s'est rendu compte jusqu'à quel point c'est fragile, et ça nous a mis face à cette deuxième évidence qu'on avait déjà, mais on l'a vu encore plus, donc de façon plus, avec plus d'évidence, que c'est l'impact de dérèglement climatique. Alors par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Greg, de dire, est-ce que si on passe ces sortes de mesures, est-ce que la production va être réduite? c'est clair qu'on peut penser ça, mais toutes choses étant égales par ailleurs. Par contre, aujourd'hui, il a des boîtes merveilleuses qui sont en train d'être développées, par exemple pour pouvoir voir au tout début des fungus ou des maladies qui peuvent avoir les plantes, donc voilà, d'une façon satellitale avec la big data, et tous ces genres d'innovation peuvent amener aussi à avoir une vision. Donc c'est ce qu'on appelle le smart farming. Donc bien évidemment ça implique une transformation, comme je disais tout à l'heure, des modes de production, avec vraiment une agriculture qui devient de plus en plus technologique, donc avec les besoins d'utiliser aussi une autre compétence. Mais ça, c'est des choses que peut-être si on pourrait faire en parallèle, il faudra peut-être voir les objectifs de la stratégie de la fourche à la fourchette, pour ne pas nous mettre en détresse, surtout maintenant quand on sait qu'on est quand même dans une situation c'est alimentaire délicate, donc pouvoir garantir des quantités, mais tout en investissant beaucoup dans toutes ces technologies qui vont nous aider et qui vont pouvoir, à mon avis, être nos meilleurs alliés pour véritablement transformer l'agriculture et entrer dans une agriculture régénérative, parce qu'il les faut. C'est-à-dire, si 70% des terres aujourd'hui sont dégradées, ça veut dire qu'aujourd'hui on produit pour 10 milliards, mais d'ici 10 ans, 15 ans, on va produire peut-être la moitié. Donc on n'aura pas assez.
Là,
on n'aura pas assez. Donc c'est pour ça que c'est un moment clé, donc pour changer, pour transformer. Je pense que le jour où j'étais dans un forum, la relance économique après les Covid. Et moi, j'ai dit, pour les secteurs alimentaires, c'est pas tant la relance. Bien évidemment, oui, pour les restaurateurs, pour tous les secteurs qui sont dû fermer. Mais en termes de vraiment les secteurs en soi, les gens, ils doivent toujours manger. Donc finalement, s'il a eu une continuité, donc les gens ils sont juste mangés d'une façon différente. Ils n'allaient pas dans la cantine, c'est des scolaires ou dans des cantines boulot ou dans un resto, ils mangeaient chez eux. Mais pour moi, l'après-Covid, c'est plutôt mettre en place une vraie feuille de route et un vrai engagement de tous les acteurs de la chaîne pour transformer et réussir la transformation vers la régénérativité et la durabilité des systèmes alimentaires.
En fait, ce qui est intéressant, je ne sais pas si c'est intéressant, mais ce qui est marquant, je trouve, c'est de voir que, je ne sais pas si c'est les personnes au pouvoir, mais c'est plutôt les lobbying qui n'ont pas le bon logiciel. C'est-à-dire qu'en fait, ils résonnent toujours quand tu parles de relance, on entend croissance, et on entend encore économie et en fait capitalisme. Alors qu'en réalité, la problématique, c'est pas cette question de rendement. Enfin, on l'a déjà dit, je pense, et je pense que c'est très clair. C'est plus une question de rendement, c'est plus une question d'optimisation. C'est une question d'optimisation, dans une certaine mesure, mais sur le long terme. Et du coup, on n'est plus sur l'optimisation, on est sur le slow, on est sur le régénératif. Et par rapport à ce que tu disais sur les technologies, je voudrais pas que les gens pensent que les technologies vont nous sauver, etc. Elles vont participer à nous aider. Mais si on ne change pas le logiciel, ça ne changera rien.
Mais bien évidemment. Donc, tout à l'heure, quand je te parlais, par exemple, de la durabilité des systèmes alimentaires, il y a beaucoup de chercheurs merveilleux qui travaillent sur ces questions en ce moment. Durabilité, ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire durabilité, assurer la sécurité alimentaire, mais pas seulement en termes d'apport, de la nourriture pure et dure, mais d'une nourriture qui soit nutritionnellement aussi adaptée et bonne pour la santé humaine. Voilà. Donc, assurer cette accessibilité pour toutes les couches de la population. Voilà. C'est donc que tous les gens puissent avoir accès. Assurer que cette façon de produire l'alimentation soit les moins endommageables possibles pour la planète. Donc, il y a moins de gaspillage, moins d'émissions. Aujourd'hui, je ne l'ai pas dit, mais un tiers des émissions vient du système alimentaire. Un tiers, c'est énorme. Wow. C'est vraiment un des secteurs qui, aujourd'hui, pollue les plus.
Un tiers à cause de la viande, des animaux, bien sûr, j'imagine.
Oui, c'est notamment lié à la production aujourd'hui des viandes. C'est surtout des bœufs. Donc, ce sont des vraies questions. Quand devrait s'y poser. Donc, il y a aussi donc, la transformation du système vers donc, la durabilité de la Terre. Voilà. Et après, il y a, comme je disais tout à l'heure, tous les systèmes, et c'est là où les citoyens ils sont véritablement donc, un mot à dire et un choix à effectuer, que c'est l'éducation et c'est leur choix. En fin de compte, donc c'est tout un système qui doit changer et on doit changer les logiciels. On doit nous essayer de voir quels sont les outils à chaque niveau qu'on peut mettre en place pour faire en sorte qu'une alimentation de qualité soit celle la plus facile à accéder et aussi la plus souhaitable. Aujourd'hui, il faut pas oublier, donc c'est les sucres en fait, que c'est aujourd'hui les sucres artificiels, c'est considéré, c'est un poisson. Peut-être d'ici 50 ans, les gens vont regarder, mais quoi, c'est quoi ces trucs? Il n'y avait pas de législation, les gens ils mangent tous ces trucs des sucres. C'est les sucres, les produits avec des graisses saturées, c'est des produits aussi qui sont très addictifs. Donc aujourd'hui, bien évidemment, c'est compliqué. Donc même si on apprend aux gens, s'ils font manger des pommes, des framboises, des produits, des clémentines, c'est un enfant, on lui donne un gâteau. Il va avoir une préférence qui tient en fait, c'est biologique, donc ça va avoir une réaction dans son cerveau donc qui rend la personne addictive à ces genres de stimulus. Voilà,
c'est la force du Nutella.
Donc c'est pour ça que c'est important de véritablement donc avoir à nouveau des politiques publiques qui puissent donc contourner donc ça, qui puissent appuyer pour que les gens puissent avoir plus de réflexes à acheter des produits qui sont vraiment bons pour leur santé. Voilà. Donc,
Et alors toi qui travailles à un niveau plus global, il y a beaucoup de discussions en ce moment, et moi ça me semble étrange, mais j'aimerais bien avoir ton avis, autour de ne pas respecter. Parce qu'en fait, dans ce que tu as dit, c'est il y avait des dispositions européennes pour aller dans ce sens-là, et puis finalement, lobby aidant, finalement on n'y est pas allé parce que les lobbies ont poussé, et du coup, il y a beaucoup de gens qui se disent, oui mais en fait l'Europe, et plus un problème qu'une solution, on devrait ne pas respecter les traités, en tout cas une partie des traités, on devrait, pourquoi pas, il y a certaines personnes qui le pensent, j'imagine, sortir de l'Europe, etc. Est-ce que tu penses que ce serait plus facile ou imaginable de le gérer au niveau national qu'au niveau européen ?
Mais pas véritablement, parce qu'aujourd'hui, au niveau national, bon, la France est un pays, heureusement, on a beaucoup de terres, c'est un pays qui reste très agricole par rapport à des autres pays plus au nord, c'est où on produit beaucoup moins. Mais aujourd'hui, c'est à l'échelle européenne qu'il faut penser la réterritorialisation des chaînes agroalimentaires. Il y a plein des saisons qui font en sorte qu'en France, on ne puisse pas avoir certains produits, alors qu'au sud de l'Italie, ou au sud de l'Espagne, ou au Portugal, on les aura. Par contre, il faut véritablement avoir donc, plus d'élan et restructurer la PAC, la politique agricole commune, pour que la politique agricole commune soit véritablement en face à tous ces enjeux, pas seulement des transitions, donc des dérèglements climatiques, donc pour réduire ces dérèglements climatiques, donc tous les engagements COP21, COP26 et autres, mais aussi pour la nutrition et la santé publique. Donc par contre, il y a des vraies réformes à faire. Donc pour revenir à ce que tu disais, donc c'est pas vraiment les lobbies, donc bien évidemment il y a des lobbies. Bien évidemment, il y a des lobbies partout. Donc, c'est dans tous les pays du monde, les gens, ils font. Donc, ils sont. Quand on travaille pour une boîte. L'Europe, on a gardé quand même un système des qualités de la production agricole qui est très, très haut. Donc, il y a peu des pays au monde qui sont la diversité qui existe encore et on les voit. Hein. C'est quelque chose que sûrement tu as vu quand tu voyages. Donc, c'est quand on goûte des poires, donc de Bretonne. On se régale. Il y a quand même, nos agriculteurs, ils sont énormément d'amour, des recherches, des connaissances aussi de la terre. Il faut plutôt les soutenir dans ces sens-là. Il faut soutenir donc cette agriculture donc des qualités qui existent. Et après au niveau de la Commission européenne, c'est pas qu'ils sont en train de complètement reculer. Effectivement, la guerre a mené à une crainte qui est justifiée donc de pour les prix, l'augmentation de prix de pétrole a fait en sorte que, bien évidemment, donc tous les chaînes, tout l'import des nourritures soit plus difficile. Mais je pense que, et à nouveau, l'échelon de l'Union européenne est très important parce qu'avec tous les pays, des autres pays qu'on a, Roumanie, donc voilà, c'est des pays traditionnels qu'on connaît la production agricole, voilà, c'est autre que la France, non, comme l'Italie, l'Espagne, le Portugal, bien évidemment, mais si on va des autres côtés aussi, vraiment, la Roumanie reste un pays extrêmement agricole, bon, la Pologne, avec, donc, bien évidemment, donc, ça dépend de la saisonnalité. Donc, c'est à ces niveaux-là, je pense qu'on va pouvoir aujourd'hui assurer des plus en plus. Plus, c'est ce qu'on appelle des enjeux des souverainetés alimentaires. Mmh. Voilà, là où il faut aller, je pense, revoir un tout petit peu donc, la feuille de route de la Commission, c'est notamment par exemple par rapport à ce qu'on appelle la commande publique. Aujourd'hui, c'est vrai que ce serait important qu'on puisse développer. Donc, je parlais l'autre jour avec un ancien ministre brésilien qui me disait qu'au Brésil, ils ont mis en place, il y a quelques années, un programme où tous les après-midi, on donne donc un goûter, donc des fruits aux enfants, donc au Brésil, et les fruits doivent être des fruits locaux. Donc des saisons et locales. Donc en Europe, on peut pas faire ça parce que on peut pas mettre donc des spécificités par rapport à la région ou à la saisonnalité. Donc ça doit être un marché ouvert. Donc c'est une vision un peu très donc concurrence donc égale donc ouverte. Et ça malheureusement, ça peut tenir peut-être pour un autre genre de marché public. Mais quand on veut changer la culture alimentaire, c'est clair que les enfants, s'ils commencent depuis tout petit à manger des produits locaux, à comprendre, à apprécier ça. Voilà, après, c'est des adultes qui vont faire les courses autrement. Mmh. Donc là, peut-être, il faudra faire en sorte qu'on puisse revoir certaines directives européennes par rapport à l'alimentation, d'une façon plus globale.
Mais en tout cas, ce que tu dis, et tous les gens... je pense que les gens ont tellement l'habitude d'aller faire leurs courses, ils ne réfléchissent pas nécessairement à d'où viennent les choses. On parle beaucoup de local, tu vois, il y a beaucoup maintenant... je pense que c'est surtout le cas pour une certaine classe sociale et dans les grandes villes, mais tu vois, des gens qui vont commander leurs œufs ou leurs légumes à côté. Mais ils n'ont pas forcément conscience que justement cette indépendance alimentaire, elle est liée à l'Europe. C'est-à-dire qu'en fait, on peut pas être pour l'indépendance alimentaire et contre l'Europe en même temps, c'est impossible. Ou alors, ils se rendent pas compte qu'en France, tout ce qu'ils mangent au quotidien n'est pas en France.
Mais oui, aujourd'hui, la France n'est pas au niveau en termes de production comme pour assurer l'alimentation de tous les citoyens français. Et c'est même pas, moi, je pense que c'est même pas souhaitable. C'est-à-dire local, on est vraiment, ça dépend les modes de transport. Il y a des études sur l'empreinte écologique et peut-être c'est à quelque chose à une centaine de kilomètres. Mais si une voiture hyper polluante qui voyage avec trois cartons de je sais pas quoi, c'est beaucoup plus polluante que peut-être un train. Donc ça, c'est où on doit développer aussi les infrastructures qui permettent donc un acheminement en Europe. Et c'est là, les marchés des gros, c'est des acteurs hyper importants, donc comme centre logistique, des volumes, en fait, pour par la suite redistribution dans des villes. Et les trains ou des autres moyens, donc des distributions moins polluantes peut-être que des camions, ou des camions aussi écologiques, parce qu'il existe de plus en plus. Et c'est là, à nouveau, où, à mon avis, doit être visé aussi, donc l'investissement dans la recherche est vraiment il faut qu'il y ait dedans pour financer donc ces genres d'outils. Donc normalement les concepts en fait des locales, c'est en Californie. Et quand on parle des locales, c'était à l'échelle de toute la Californie. Donc, c'est plus de 1000 km². Alors, c'est la même chose qu'on peut dire des 1000 km. Si on prend Paris, 1000 km, on est quand même assez loin. Hein. D'un côté, on est en Espagne.
On est en Allemagne, en tout cas.
Voilà, on est en Espagne, on est en Allemagne, on est de l'autre côté.
En Pays-Bas,
on est bien plus loin qu'en Belgique. La Belgique, ouais. C'est même pas à 300 km. Ouais, c'est à rien. C'est à 100 km. Donc, mais voilà, donc on voit quand même qu'on a un périmètre beaucoup plus large. Donc, bien évidemment, il faut, à mon avis, donc, soutenir et redéployer donc, les chaînes traditionnelles d'approvisionnement. Il faut les relocaliser, mais la relocalisation ne peut pas être exclusif. Mmh. Voilà, ça peut être... Mmh. Je pense que les bons échelons, c'est l'échelon de l'Europe, et aussi avec, donc, bien évidemment, donc, des produits qui seront encore importés donc, des autres latitudes. Voilà, mmh. c'est les transports qui va faire... Et c'est la façon dont on créera l'énergie. Donc ça, c'est vraiment des plus grands enjeux de notre époque, de voir quelle est la façon dont on crée l'énergie pour voir comment on achemine finalement ces biens.
Bah, il y a ça, enfin, il y a l'énergie, et puis il y a un autre sujet qui est très lié à l'agriculture, c'est l'eau potable. Hein, parce qu'en fait, c'est pareil, je pense qu'on ne se rend pas nécessairement compte parce qu'on n'est pas en manque, en tout cas en France, mais il y a une problématique d'eau potable très claire.
Mais complètement. Et là, tu touches vraiment un sujet où aujourd'hui, bon, voilà, c'est la technologie est en train de devenir très, très à la pointe pour essayer de rationaliser de plus en plus. Et là, il y a des exemples incroyables, donc des pays où il y a véritablement des manques d'eau. Donc, on peut prendre vraiment des exemples. Bon, dans tous les Émirats arabes, ils sont en train de faire beaucoup de efforts là-dessus. Donc, en Israël, traditionnellement, dans toute la partie de Negev.
De désalinisation.
Voilà, donc, c'est pas seulement désalinisation, mais aussi donc, comment on peut faire pour irriguer d'une façon plus efficace. Voilà, c'est en réduisant, finalement, en voyant quelle est la quantité donc, optimale et en essayant d'entrer aussi dans des cycles plus régénératifs. Donc aussi, il y a vraiment plein de façons, par exemple, de construire. Moi, je ne suis pas une spécialiste de l'agriculture régénérative, mais j'adore ça. Et c'est vrai qu'il a les moyens de mettre des plantes aussi qui créent donc, de l'oxygène ou qui créent donc, des plus de condensation. Donc pour faire à côté des petites lacunes aussi, donc on a des réservoirs d'eau, donc d'eau de pluie, d'eau des nappes. Donc aujourd'hui, en réalité, on a beaucoup de techniques. Il faut maintenant aussi payer les prix de ces changements. Comme je disais tout à l'heure, l'agriculture régénérative, par exemple, elle commence à être rentable quelque part après 6-7 ans de création de la ferme. Donc ça veut dire pour un agriculteur aujourd'hui, c'est impossible de se dire, voilà, pendant 7 ans, je vais m'endetter pour après avoir donc une production, mais comment faire? Donc ça, c'est des choses aussi que je pense qu'on peut trouver des réponses, hein, des politiques publiques ambitieuses.
Et c'est quoi enfin, une question bête sans doute, mais c'est quoi le rôle des marchés de gros? Parce qu'en fait, on connaît Rungis, parce que bon, c'est en France. Est-ce que les marchés de gros, ça s'oppose pas avec cette idée de relocalisation et de d'indépendance alimentaire? Je pense qu'on a tous cette image d'Épinal française de aller chercher, tu vois, ses œufs dans la ferme d'à côté, d'aller chercher, pourquoi pas un pain qui a été fait dans la ferme d'à côté, pourquoi pas des légumes, pourquoi pas les faire pousser soi-même. Et du coup, quand on regarde les marchés de gros, j'ai la sensation que dans l'imaginaire collectif, en tout cas, on associe le marché de gros avec le capitalisme et donc cette surproduction, optimisation, etc., etc. J'aimerais bien avoir ton point de vue là-dessus.
Alors, les marchés de gros, c'est assez drôle parce que la plupart des gens, ils comprennent pas véritablement quel est leur rôle. C'est tout au contraire de cette image. Donc voilà, c'est vraiment des grandes chaînes comme ça qui viennent de très loin. C'est aujourd'hui la plupart de ce qui est vendu dans les marchés de gros, c'est la production locale ou c'est la production régionale. Donc surtout quand on parle dans des pays qu'on dit développement, donc c'est 80% de la production nationale va se vendre dans des marchés de Mexico, de Rio de Janeiro, ou voilà, c'est en Chine, ou au Vietnam, Indonésie ou autre. Donc, ce sont des acteurs. En fait, les marchés, il faut comprendre. Donc, bien évidemment, moi aussi, j'ai vécu 15 ans à Paris. J'aimerais beaucoup voir tous les jours mon petit producteur qui vient avec ses carottes, un peu avec la terre. C'est une image, voilà, c'est très romantique. Mais en fait, l'agriculteur, il doit être dans son exploitation. Il n'a pas les temps pour venir et te donner 3 pommes à toi, 3 pommes à moi, 5 autres pommes à Pierre. C'est impossible. Voilà, c'est lui, il avait soin des volumes. Et c'est là où les marchés de gros, ils font ce travail, mais qui est un travail vraiment important, que c'est un travail de mettre ensemble donc, tous les volumes. Donc aujourd'hui, quand on parle de marché de gros de Paris, donc c'est Rungis. Donc les marchés de gros nourrissent 18 millions de personnes en produits frais. frais. Aujourd'hui, les marchés de gros sont responsables pour 50% de la production agricole distribuée dans le monde. Donc, c'est vraiment des acteurs clés donc, pour l'accessibilité à des produits frais par rapport à des autres acteurs qui vendent, voilà, c'est, je vais les dire quand même, des supermarchés où ils vendent, voilà, dans un supermarché, les rayons frais, il est très petit. Il a très, très peu de gens, très, très peu de choses. La plupart des temps, les supermarchés vont faire des rayons frais par ailleurs pour. C'est une appel émotionnel. Parce que bien évidemment, donc voilà, si on a tous été en Angleterre, bon, pas tous, mais beaucoup de gens en Angleterre, on voit tous les boîtes comme ça, ça fait penser à la Deuxième Guerre mondiale, c'est alors les haricots noirs. Donc, du coup, on met des produits frais, mais il y a très peu de produits frais. Et pour les coûts, les supermarchés vont beaucoup plus travailler avec des chaînes, donc des gros contrats qui sont avec des fermes en paix internationale parce qu'ils vont très distribuer par la suite. Donc, on trouve des produits de partout dans le monde. Par contre, dans les marchés de gros, c'est en fait c'est les alliés de la petite agriculture, l'agriculture locale. Donc, on est un petit agriculteur. Par exemple, si on va dans un marché de gros, les marchés de gros, il faut le rappeler aussi, la plupart des marchés de gros dans le monde, c'est des marchés publics, c'est-à-dire c'est des marchés qui... La gestion de marché est une gestion qui est ténue, dont les propriétaires, c'est soit le ministère de l'Agriculture, ça peut être le ministère des Finances, ou une collectivité territoriale. Et les rôles, c'est de rendre, d'une part, donc accessible aux petits producteurs ou aux moyens producteurs au marché. Donc, quand on va dans un marché de gros, les producteurs... S'il a pas aimé les prix qu'il lui propose des grossistes, il peut choisir encore de les vendre à peut-être une centaine d'autres. Dans les cas de Rungis, c'est même plus parce qu'il a 1300 boîtes, mais il a 1300 grossistes. Donc, si tu n'aimes pas les prix d'un, tu peux aller voir tous les sorts. Donc, il a beaucoup plus de marge. Donc, les producteurs, il peut aussi choisir de les vendre lui-même. Donc, les marchés de gros, on voit de plus en plus cette fonction qu'ils ont. Donc, il a à l'intérieur des marchés de gros, il a des halles des producteurs. Donc après, à nouveau, c'est les halles des producteurs, c'est très saisonnier. Donc, on ne produit pas toujours de tous les produits. Donc voilà, c'est des producteurs, il ne peut pas aller tous les temps. Donc, au moment de la récolte, il peut aller lui directement vendre au marché dans des bonnes quantités, à nouveau. Et après, les marchés des gros et les liens donc, qui permettent aux villes de s'assurer un approvisionnement en produits frais. Donc, des produits que la plupart des temps sont des... Voilà, c'est... Bon pour la santé, on va dire, c'est des fruits et des légumes. Il a une autre aussi donc tâche, on va dire, des marchés de gros, qui c'est la certification de produits, de la qualité de produits. Donc on parlait tout à l'heure de pesticides et autres, c'est clair qu'il a vraiment beaucoup de voilà, c'est beaucoup de des contrôles qui se font, donc ce qui permet d'avoir donc des garantir donc la qualité de produit. Donc non, je pense qu'aujourd'hui, tout au contraire, donc dans un monde où on va devoir transformer donc les systèmes alimentaires et on va voir plus de relocalisation de la production, les marchés des gros vont devenir plus au centre parce qu'on va avoir besoin des logisticiens, voilà, c'est d'une savoir-faire et d'une façon de distribuer. Donc voilà, qui puisse venir en aide à ces nouveaux systèmes. Donc là où je pense que peut-être il y a des gens qui se posent, je pense que dans les futurs, donc des technologies aussi vont faire plus clair quelle est la distribution des prix entre les producteurs et les différents, voilà, c'est les différents échelons,
les consommateurs,
et les consommateurs. Et ça va rendre aussi plus transparente et on va voir qu'en réalité c'est une image qui s'effondre les gens qui est très très différente de la réalité. Quand on va dans un marché des gros, en fait il y a beaucoup de grossistes que c'est, en fait il faut les voir presque comme un œnologue mais de terroir agricole. J'ai rencontré des gens dans ma vie professionnelle, donc dans les marchés de gros, qui tous les week-ends, ils vont aller dans différentes fermes chercher la meilleure fraise, qui vont véritablement voir. Donc, et ils sont une palette des producteurs. Là, une autre chose aussi en termes de résilience, Greg. Pendant les Covid, donc beaucoup de supermarchés, étant donné que tout ce qui est fret maritime, il avait beaucoup de problèmes parce que voilà, dès qu'il avait une personne qui tombait malade des Covid, tout le monde était, il fallait arrêter, donc il a eu beaucoup de disruptions dans la logistique au niveau international, beaucoup de supermarchés se sont retrouvés sans leur fournisseur, donc des produits frais. Voilà, ils sont venus dans des marchés de gros pour pouvoir donc, rendre accessible à des gens donc, des produits frais. Et on voit dans les marchés de gros, il y a beaucoup plus de résilience. Pourquoi ? Parce que c'est chaque donc, grossiste une palette, une diversité des producteurs beaucoup plus large. Donc, quand on parle de résilience, c'est quand même un système beaucoup plus résilient et on trouve beaucoup plus de diversité. Voilà, c'est dans les marchés des Rungis, on parlait des pommes tout à l'heure, il a des saisons où je t'inviterai aussi à venir. Donc, il a 40 genres de pommes différentes. Donc alors qu'au supermarché, peut-être tu pourrais trouver 2-3. Voilà, oui, la sûr. Bio, la mauvaise qualité, c'est Granny et c'est tout. Donc c'est quand même aujourd'hui, je pense, un des plus grands outils, comme je disais tout à l'heure, sur le public. C'est un des plus grands outils des CETA pour soutenir donc, cette nouvelle alimentation et ce nouveau système alimentaire que je pense est nécessaire si on veut avoir une société donc, plus durable.
Et on parlait tout à l'heure d'optimisation. Est-ce qu'il n'y a pas... Tu sais, je ne sais pas si tu as vu cette campagne, mais qui a été produite par Intermarché autour des produits et des légumes moches. Parce qu'il y a eu cette histoire aussi dans cette idée d'optimisation et de performance, on a aussi créé des gabarits pour les produits.
Les calibrages, oui.
Les calibrages pour les légumes, pour les fruits, donc ils doivent être de cette telle taille. Et en fait, il y a plein de gens qui ne se rendent pas compte qu'un concombre, ça peut être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus gros que ce qu'on trouve dans un supermarché. Ça peut, pareil pour une aubergine, il peut y avoir des formes de poires. Tu parlais des poires tout à l'heure qui sont, voilà, accidentelles, on va dire, qui ne sont pas en tout cas parfaitement, voilà. Mais ce n'est pas pour ça qu'elles sont mauvaises, évidemment. Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette idée de se dire, il faut qu'on arrête avec cette histoire de calibrage et que, bien sûr, quand tu es une personne seule, tu ne vas pas prendre un concombre de 3 kilos, tu vois, je dis n'importe quoi, mais par contre, il faut quand même arrêter cette histoire de calibrage et se retrouver avec des légumes qui... Enfin, il faut changer dans les mentalités, parce qu'en fait, je pense que tu as du mal à les trouver, même dans les marchés, ces produits-là. Tu peux le trouver, à mon avis, dans les paysans à côté de chez toi, mais tu as du mal à trouver dans les marchés des produits qui ne correspondent pas au calibre auquel on est habitué. Je pense qu'il y a même des gens qui ne reconnaîtraient pas finalement les produits parce qu'ils se disent « mais attends, c'est quoi ce truc ?» Parce que ce n'est pas du tout le calibre auquel on est habitué. Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'éducation aussi à faire à ce niveau-là pour changer les mentalités là-dessus ?
Mais c'est pour ça que si par exemple on a des petites fermes dans des écoles ou des petits potagers,
ils pourront voir.
Les enfants vont pouvoir voir la différence. Voilà, c'est que quand on a un potimarron, ils sont des tailles, des formes différentes. Et voilà, ça revient aussi à la question tout à l'heure quand on parlait des diversités donc, des graines. Donc, on utilise aujourd'hui des graines très standardisées. Malheureusement, on a choisi aussi des graines qui vont avec des critères de rendement. Donc, parfois, on va faire pousser une tomate. On va choisir une certaine tomate, pas parce que pour ses qualités nutritionnelles, mais plutôt parce qu'elle pousse plus vite, parce qu'elle a... Donc, ça, c'est vraiment des choses que je pense qu'il faut revoir aussi. Et bien évidemment, par rapport aux produits moches, je pense qu'une éducation à ça, elle est vraiment nécessaire pour montrer aux gens qu'il faut apprendre, aux gens à faire à manger. Il faut les réconcilier avec cette idée de que c'est pas si dur, ça prend pas 1000 heures, c'est en 15-20 minutes, on peut faire quand même un repas, c'est facile, de beaucoup, beaucoup mieux sur le long terme, parce que finalement, si on mange mal, les conséquences sont néfastes sur le long terme, c'est vraiment des maladies, on perd des années de vie. Il faut penser aussi beaucoup à ça, donc c'est l'éducation et après, travailler avec cette optique. Donc nous aussi, c'est qu'on fait, par exemple, il a des marchés des gros notamment où il a des produits qui sont pas vendus, donc où ils sont installés des sous-signes des transformations et ils vont faire donc des purées ou des confitures sans sucre, donc pour par la suite donner une nouvelle vie à ces produits là
et pas faire du gaspillage.
Exactement.
Et en fait, ce que tu dis, si je résume par rapport à ce que tu dis pour les gens qui nous écoutent et qui sont pas forcément des experts du domaine, c'est au moins d'une manière ou d'une autre, aller créer un petit potager quelque part, pas tant pour leur survie, mais pour apprendre et reprendre le reprendre le contact avec la terre, reprendre aussi le contact avec le travail qui est nécessaire, ce qui permettra sans doute mieux de respecter les agriculteurs et le travail qu'ils mettent dedans. Ça permet également d'apprendre effectivement les différentes formes des fruits et légumes. Ça permet plein de choses en fait. Et c'est vrai que quand on a cette histoire de se dire je vais faire pousser mes propres légumes, je pense qu'il y a vraiment cette logique survivaliste derrière, ou de hobby, ou je sais pas, voilà. Mais en fait, il y a plein d'autres choses derrière que je trouve hyper intéressantes.
Mais oui, on va dire qu'il faut éveiller à nouveau la curiosité et les liens avec la terre et les liens avec l'alimentation. Donc, cuisiner plus ensemble, faire des choses, voilà, c'est avec des produits aussi plus frais. Donc, essayer de laisser un tout petit peu une pâtisserie traditionnelle qui, bien évidemment, on aime tous et qu'il faut continuer aussi à soutenir parce qu'on adore nos pâtissiers. Mais il faut qu'on puisse développer des nouveaux outils qui nous permettent de mieux manger, de mieux apprécier ces qu'on mange, j'ai mieux respecté. Donc, ce travail qui est fourni par des mains de tellement de femmes et des hommes qui sont dans les campagnes et qui est fourni aussi par la planète Terre.
En fait, quelque part, c'est marrant, j'ai l'impression qu'on est allé très loin dans un modèle américain où justement, tu parlais du repas, de faire la cuisine, où là-bas, ils n'ont pas cette culture, en fait. Ils n'ont pas la culture du bien manger, mais ils n'ont pas la culture non plus du repas à plusieurs. Pour eux, manger, à part Thanksgiving, on va dire, mais c'est vraiment une nécessité. Donc, en fait, il n'y a pas ce moment. Et en fait, finalement, ce que tu es en train de décrire, c'est de revenir à une culture beaucoup plus européenne, quelque part avec des valeurs de partage, de lien à la terre, etc. C'est bizarre, mais il y a vraiment... Moi, j'entends comme ça. En fait, j'ai vraiment cette idée, mais peut-être que je me trompe, que l'Europe est extrêmement bien positionnée par ses valeurs sur... l'échiquier mondial, alors que je sais évidemment qu'on parle beaucoup de la Chine et des États-Unis, un peu moins de la Russie, même si elle nous fait peur de temps en temps, en tant que modèle, alors qu'en fait j'ai l'impression que l'Europe finalement représente un modèle pour demain.
Je pense que l'Europe, elle représente certainement un modèle en termes d'agriculture. L'agriculture européenne, comme je disais tout à l'heure, ça reste vraiment une agriculture de très très bonne qualité. On a beaucoup d'agriculteurs de petite, moyenne taille. Ça, c'est aussi un grand enjeu. On n'a pas parlé, mais avant 2030, en France, on va perdre la moitié de nos agriculteurs. Donc vraiment, c'est un grand enjeu là, à donner envie aux gens d'aller à la terre. Donc pour cela, il faut les respecter aussi, les voir, bien les payer. Donc voilà, il va y avoir tout un travail assez énorme à faire. Donc, je pense que comme pour beaucoup des choses, l'Europe a été aussi par son positionnement politique, sociétal et autres, elle a résisté plus à ces sortes des mythes de capitalisme pur et dur. Donc, en réalité, les repas à plusieurs a toujours été dans toutes les cultures. Je disais tout à l'heure, que ce soit au Mexique, on se retrouve dans des grosses tables en famille, donc, mais vraiment partout, quoi, dans les pays arabes, qu'est-ce qu'on adore. En Argentine, voilà, dans des pays arabes, on adore, on met 40 000 petits plats, donc tous faits, donc avec beaucoup de légumes locaux, bien des sûr, tagines, des soupes, des chorbas. Donc l'Europe a pu garder, comme il a eu une sauvegarde culturelle, donc des valeurs. Je pense que c'est aussi parce qu'on a moins peut-être acheté donc ces sortes des théories de l'hypermodernité qu'ils nous vendaient. Hein, parce que on se souvient d'aller à l'époque des Trente Glorieuses, c'était donc il avait tous les électroménagers, la vie elle est venue beaucoup plus facile. Voilà, on ouvre un truc, un plat surgelé, on les mange et vraiment c'était les dépassements d'une époque où on était esclaves, donc de faire des choses, et maintenant on allait gagner beaucoup de temps. Mais finalement, qu'est-ce qu'on gagne? On gagne ce temps, qu'est-ce qu'on fait? On traîne sur Instagram. Voilà, donc c'est clair que l'Europe, par rapport aux valeurs qui a défendu et qui a su sauvegarder, aujourd'hui, elle est dans une bonne position, je pense, pour être véritablement fer de lance de cette optique, de cette transformation alimentaire, et à promouvoir aussi dans des autres pays où ne serait-ce que par rapport à l'utilisation des pesticides ou autres. Bon, moi, je viens de l'Argentine, comme tu le sais. Donc, en Amérique latine, aujourd'hui, on a des très gros problèmes par rapport à l'utilisation des pesticides. Ce sont des choses que je pense, que j'espère que dans les futurs, la commission, du point de vue diplomatique, y poussera, parce que, comme je disais, on ne peut pas continuer comme ça si on veut survivre. Voilà. ça, tout simplement. Donc, et à ce niveau-là, oui, on a en Europe quand même c'est des bonnes pratiques à partager et une façon de faire et de vivre qui est reconnue et admirée, hein, parce que les Américains, ils adorent hein, venir à Paris et s'asseoir au restaurant et flâner, voilà comme ils disent, autour d'un bon repas.
Ouais, parfait. Merci beaucoup, Génia. Une dernière question habituelle. Le podcast s'appelle Vlan, donc je veux savoir à quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte.
Alors, je pense que je vais claquer la porte à ces systèmes qu'on avait auparavant, où on ne pensait pas à la terre, on ne pensait pas aux hommes et aux femmes qui sont en train de produire, et qu'on pensait que, voilà, je comprends que ces systèmes, il a été utile à un moment donné, à la sortie de guerre et avec cette optique donc productiviste. Je pense qu'aujourd'hui, il est temps de dire au revoir à ces systèmes-là et véritablement travailler ensemble pour changer pour un système plus durable et qui tient en compte la santé humaine et la santé de la planète.
Parfait. Merci beaucoup.
Je t'en prie.
Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg From Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.